la tour numéro 1 du World Trade Center à New York le vendredi 26 février 1993. Le stationnement souterrain est le théâtre d'une explosion dévastatrice que cache une fumée très dense. Une femme blessée, seule, prisonnière des décombres, appelle la police. Ce jour-là, le service de police de New York recevra plusieurs appels de détresse de gens qui semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. Midi 18, le 26 février 1993, la tour numéro 1 du World Trade Center de 110 étages fut prise d'assaut par la panique et la confusion. Des gens étaient prisonniers dans les ascenseurs. Il n'y avait plus d'électricité. La fumée avait rendu les couloirs obscurs. Des milliers d'occupants blessés et terrorisés suffoquaient en essayant d'échapper à ce qui ressemblait à un cauchemar. L'ingénieur qui avait conçu les tours avait pourtant imaginé plusieurs scénarios catastrophes. Les tours devaient pouvoir résister à la violence d'un ouragan et même à quelque chose d'aussi inimaginable que l'impact d'un avion à réaction rempli d'essence. Mais à l'évidence, il n'avait pas pensé à tout, même si personne ne savait encore exactement ce qui arrivait. La tour numéro 1 du World Trade Center s'était transformée en une immense cheminée. Les cages d'escalier aspiraient la fumée du sous-sol et enfumaient du même coup les étages supérieurs. Au cours des premières heures, on ne savait qu'une chose. La source du problème se trouvait dans le stationnement souterrain. Neil Herman, le superviseur d'une cellule antiterroriste du bureau du FBI de New York, se trouvait à seulement quelques rues du World Trade Center. Même si les agents du FBI n'avaient aucune idée de ce qui avait pu causer ce désastre, ils décidèrent d'envoyer une équipe sur place.
Au début, on nous a dit qu'il s'agissait peut-être d'un incendie ou de l'explosion d'un transformateur. Mais, à en juger par l'agitation sur la radio de la police, on a mis seulement quelques minutes à comprendre que c'était plus grave. Avec d'autres membres de la cellule antiterroriste, je me suis rendu au World Trade Center.
Il fallait d'abord et avant tout évacuer les victimes de l'immeuble. Mais les importants dégâts causés par la déflagration nuisaient considérablement au travail des sauveteurs. De nombreuses personnes durent faire des pieds et des mains pour enfin sortir de l'immeuble. Comme les ascenseurs ne fonctionnaient plus, les occupants des derniers étages devaient descendre à pied. De plus, plusieurs furent victimes de malaise après avoir inhalé trop de fumée. Pendant que des centaines de sauveteurs travaillaient sans relâche, les agents du FBI qui avaient été envoyés à l'immeuble se mirent à la recherche de tout indice sur la cause de cette dévastation. Les dégâts étaient colossaux. Tout autour du complexe, les rues s'étaient déformées sous la force de l'impact qui venait d'en dessous. L'hôtel Vista, niché entre les deux tours, avait subi d'énormes dégâts lui aussi. Pour les enquêteurs, il devint très vite apparent que ce qui s'était passé dans le stationnement de l'immeuble ne pouvait être que très puissant pour avoir endommagé quatre niveaux du stationnement, de même que la rue et les premiers étages de l'immeuble. L'agent spécial Chuck Stern, du service antiterroriste du FBI, menait l'enquête.
À peu près une heure après le coup, on a commencé à penser qu'il y avait eu des explosifs. Et bien sûr, on obtenait de plus en plus d'informations. Nos experts en explosifs du FBI étaient descendus dans le stationnement et ils travaillaient avec l'escouade antibombes de la police de la ville. Ils en étaient arrivés à la même conclusion, tout laissait croire à une explosion.
En début de soirée, les 200 agents et experts du service des explosifs du quartier général du FBI furent envoyés sur les lieux pour venir en aide aux experts de l'escouade antibombe de la police de New York et ceux de l'ATF, le bureau qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu. La priorité, sortir des survivants. Les sauveteurs fouillaient principalement le stationnement. Lentement, à mesure qu'ils progressaient parmi les décombres, ils furent à la fois stupéfaits et soulagés de trouver des survivants. Ils atteignirent bientôt un endroit ayant subi des dégâts plus importants encore. Les experts en explosifs du FBI, de l'ATF et de la police de New York étaient tous vêtus de combinaisons de protection. Certains avaient avec eux des caméras thermiques qui pouvaient discerner les corps parmi les décombres. Les équipes de fouilles firent bientôt plusieurs découvertes macabres. Ils trouvèrent 6 morts. Parmi ceux-ci se trouvait John DiGiovanni, un vendeur de fournitures de dentisterie qui s'était garé dans le stationnement. Robert Kirkpatrick, William Mako, Stephen Knapp et Monica Smith, qui faisaient partie de l'équipe d'entretien des bureaux du World Trade Center. Monica était enceinte de son premier enfant. Wilfredo Mercado, un employé aperçu pour la dernière fois en train de décharger une fourgonnette dans le stationnement, fut également trouvé mort sous 4 mètres de béton. C'était une scène d'apocalypse. Des débris et du béton étaient éparpillés sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Des centaines de voitures avaient été démolies et des incendies éclataient un peu partout à cause de l'essence répandue. Des pompes drainaient l'eau qui giclait des tuyaux brisés. Au-dessus de leur tête, les sauveteurs virent 6 tonnes de béton maintenues par des barres d'armature tordues. Des câbles de fibre optique pendaient dans le vide. Pour les agents du FBI, il ne pouvait absolument pas s'agir là d'un accident. L'agent spécial Chris Roney, du laboratoire du service des explosifs du FBI, examina les lieux.
En analysant les dégâts de l'immeuble, et ce, dès le début de l'enquête, nous avons vu clairement qu'ils avaient été causés par une bombe importante, un engin explosif de plusieurs centaines de kilos. À ce moment-là, on n'en était encore qu'à des approximations. Mais on savait que quelqu'un l'avait laissé quelque part dans le stationnement souterrain, vraisemblablement dans une voiture.
Si les conclusions préliminaires des agents étaient justes, c'était le plus important attentat terroriste à avoir lieu en sol américain jusque-là. Le lendemain matin, des équipes composées de diverses agences effectuèrent un examen plus poussé des dommages. En plus d'être toujours à la recherche de victimes, il devait trouver des indices qui expliqueraient la cause de l'explosion. On leur avait toutefois explicitement donné l'ordre de ne rien déplacer. La structure des niveaux inférieurs était sérieusement affaiblie. La moindre perturbation pouvait provoquer un affaissement et tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le niveau 2 du stationnement s'était effondré et avait ainsi entraîné des centaines de voitures quelques étages plus bas. Tous les véhicules s'étaient par conséquent retrouvés au dernier niveau, écrasant du même coup la salle de réfrigération de l'immeuble.
En fait, ce que les ingénieurs nous ont dit, c'est que les débris qui s'étaient accumulés autour des piliers les faisaient ressembler à des pailles qu'on aurait plantées dans le sable. Et il ne fallait pas enlever ces débris, car on risquait d'affaiblir du même coup le peu de soutien qui restait à l'hôtel Vista au-dessus.
Des équipes d'ouvriers s'évertuèrent à renforcer murs et piliers de soutien sur les divers niveaux du stationnement pour que les agents et les investigateurs puissent examiner les lieux en sécurité. Après plusieurs heures, les techniciens purent enfin atteindre l'endroit où s'était produite la déflagration.
C'était sinistre, presque fantomatique, car c'était désert. De nombreuses voitures avaient le coffre ouvert. On entendait parfois un tic-tac, semblable à celui que fait la minuterie d'une bombe, mais en fait, c'était les clignotants qui s'étaient mis à fonctionner.
Peu à peu, les équipes se rapprochaient du foyer de l'explosion. Les dégâts étaient si importants qu'il ne restait rien qui puisse expliquer ce qui l'avait causé. Tous les niveaux s'étaient effondrés, creusant un cratère de 5 étages de haut. Les enquêteurs à la recherche de résidus d'explosifs eurent du mal à en trouver, car ils s'étaient mêlés aux débris de béton et autres matériaux de construction. On devrait passer au peigne fin des tonnes de décombres pour trouver la moindre parcelle d'indices. On recueillit la poussière sur des centaines de véhicules endommagés et on passa l'aspirateur à l'intérieur à la recherche de résidus. Il n'était pas question de baisser les bras. Quelque part parmi ces décombres se trouvaient forcément des réponses. La population des États-Unis fut incrédule puis horrifiée en voyant les images de l'attentat à la bombe du World Trade Center. C'était comme si l'innocence de l'Amérique avait été détruite. Les États-Unis faisaient désormais partie des pays ciblés par les terroristes. Résolus à trouver les coupables, les dirigeants de la ville mirent leur tête à prix. On offrait $200,000, soit la plus importante récompense jamais offerte dans l'histoire de New York, pour tout indice menant à leur capture. Dès le samedi matin, le FBI établit un poste de commandement pour mener cette enquête. Tous les agents disponibles furent assignés à l'affaire. Ils reçurent des centaines de pistes. Beaucoup de gens appelaient pour parler d'un voisin suspect. De nombreux groupes revendiquèrent la responsabilité de l'explosion. Même si la plupart de ces pistes ne semblaient guère prometteuses, on ne pouvait en négliger aucune. Deux jours après la déflagration, pendant que les agents continuaient de remonter des pistes, les enquêteurs qui examinaient la scène du crime remarquèrent un morceau d'acier tordu et carbonisé à l'endroit précis où l'on pensait que l'explosion avait eu lieu. Cette pièce provenait d'un véhicule détruit, peut-être même le véhicule utilisé pour le transport de la bombe. Les experts aperçurent alors une série de chiffres gravés sur ce morceau de métal. Bien qu'on leur ait ordonné de laisser tous les indices en place, ils étaient convaincus que cet objet était assez important pour qu'il puisse contrevenir aux directives. Ils placèrent le morceau de métal sur un brancard et le firent monter jusqu'au niveau de la houe. Une fois à la surface, les agents acheminèrent à toute vitesse leur trouvaille au laboratoire judiciaire du service de police de New York mis à leur disposition. Les experts en poste eurent du mal à trouver le sens des chiffres gravés sur le métal. Ils appelèrent à l'aide un enquêteur de l'escouade du FBI spécialisé dans le vol d'auto afin qu'il examine la pièce. Son analyse fournit la première piste sérieuse de l'enquête. Il appela immédiatement l'agent spécial Stern pour lui faire part de ses conclusions.
Il m'a dit « Chuck, j'ai examiné tout ça » et j'ai demandé à la personne qui me montrait la pièce si elle savait ce que représentait ce numéro. C'était le numéro d'identification confidentielle du véhicule.
Ce numéro est tout aussi unique à une automobile que les empreintes digitales d'un individu. Ce numéro caché permet aux autorités de savoir si un véhicule a été volé. Il permet également aux enquêteurs d'obtenir des renseignements sur le véhicule, notamment qui en est le propriétaire. En moins de 3 heures, les enquêteurs avaient introduit le numéro dans la base de données criminelle nationale, le NCIC, dans laquelle se trouve la liste de tous les véhicules volés aux États-Unis. La réponse ne tarda pas à leur parvenir. C'était le numéro d'identification d'une camionnette Ford volée du concessionnaire DIB à Jersey City, au New Jersey. On contacta sans attendre le bureau du FBI à Newark. En l'espace de quelques minutes, des agents se présentèrent chez DIB pour savoir qui avait eu accès au véhicule.
«
Cette camionnette Ford était en fait un véhicule de location de la société Ryder. Un certain Mohamed Salamé l'avait loué, puis il avait signalé son vol. Les agents ont appris des dirigeants de DIB que ce Salamé avait fourni une caution de $400 et qu'il avait essayé à maintes reprises de récupérer son argent.
Après avoir consulté le procureur tard dans la soirée du mercredi, le FBI décida d'envoyer un agent incognito chez DIB le lendemain matin, lorsque Salamé viendrait chercher sa caution. Les agents passèrent le reste de la soirée à tenter d'en apprendre le plus possible sur ce Salamé. Cet immigrant de 25 ans, d'origine palestinienne, s'était fait connaître des autorités lorsqu'il avait publiquement appuyé l'intégriste musulman El Saïd Nasser, un opposant bien connu des gouvernements israéliens, égyptiens et américains. L'agent secret se fit passer pour un représentant de Ryder. Il déclara à Salamé qu'il devait obtenir plus d'informations à propos du vol de la camionnette pour lui accorder un remboursement. Après discussion, Salamé se préparait à quitter l'immeuble, les $400 en poche. Mais dès qu'il eut franchi le pas de la porte, des dizaines d'agents du FBI qui avaient écouté sa conversation avec l'agent secret se précipitèrent sur lui. Moins d'une semaine après l'explosion, le FBI avait un suspect en détention. Salamé parla peu aux agents qui l'interrogèrent à propos de l'explosion. Ceux-ci croyaient qu'il n'avait sans doute pas agi seul. Les enquêteurs commençaient à y voir un peu plus clair. Au moment de l'arrestation de Salamé, ils recueillirent de nombreux effets personnels, notamment son porte-monnaie qui contenait de nombreuses cartes de visite et des numéros de téléphone. Ils se rendirent ensuite à l'adresse qui figurait sur son permis de conduire. Son ancien colocataire déclara que Salamé ne logeait plus là. Toutefois, les agents trouvèrent des effets qu'il avait laissés derrière lui. Il y avait notamment des articles de journaux et des photos de lui en compagnie de Nasser. Ils y trouvèrent également des relevés bancaires. Il y avait aussi d'autres noms et adresses, autant de nouvelles pistes à suivre.
On a pu mettre la main sur des adresses et des numéros de téléphone. On a également obtenu l'autorisation de vérifier le registre des appels entrants et sortants de ces lignes téléphoniques. Encore une fois, c'était comme si on ouvrait les vannes.
Les enquêteurs eurent également l'aide du public. Quelques jours après l'arrestation de Salamé, le gérant de Space Station, une entreprise d'entreposage au New Jersey, appela le FBI. Des individus ayant loué l'unité 4344 avaient reçu de nombreux colis de fabricants de produits chimiques peu de temps avant l'explosion du World Trade Center. Le gérant avait fait ouvrir l'unité en question et y avait trouvé ce qui semblait être des produits et de l'équipement pour fabriquer des bombes. Les agents du FBI arrivèrent à la même conclusion que lui. Ils y trouvèrent de nombreux composés chimiques utilisés dans la fabrication de bombes. Ils envoyèrent le tout au labo du FBI pour analyse. La fouille de l'unité d'entreposage permit d'obtenir plusieurs autres pistes de recherche. Des reçus d'achat de produits chimiques, des relevés bancaires et téléphoniques et un bonus inespéré, un compte-rendu des allées et venues du suspect à Space Station. En effet, pour entrer dans l'unité, le locataire devait taper son code d'accès sur un clavier à l'entrée. Chaque fois, ce code était enregistré par le système électronique. Les agents purent ainsi savoir à quel moment précis le suspect était entré dans l'unité 4344. Au même moment, la police organisa une séance d'identification. Doug Mulvan, le gérant de Space Station, identifia sans mal Mohamed Salamé comme étant l'homme qui avait loué l'unité d'entreposage. Il le reconnut facilement car Salamé venait souvent. Par expérience, Mulvan savait pourtant que ses clients ne viennent d'ordinaire que très rarement. « Poursuivant leur recherche d'une piste solide, les agents obtinrent les relevés téléphoniques d'un téléphone public situé devant Space Station. L'un des individus qui recevait souvent des appels en provenance de cet appareil était déjà bien connu des agents du FBI. Il s'agissait d'un certain Nidal Hyatt. C'était le premier nom qu'on avait aperçu parmi les cartes professionnelles du porte-monnaie de Salamé. Hyatt était ingénieur chimiste. Moins d'une semaine après l'arrestation de Salamé, les agents apprirent qu'Hyatt avait appelé un fabricant de produits chimiques pour s'enquérir à propos d'achats. Ainsi, il était possible qu'il commette un autre attentat à la bombe. Cette hypothèse était terrorisante car la menace était réelle. Les agents croyaient avoir obtenu suffisamment d'informations pour obtenir le mandat d'arrêt d'Hyatt. Le 10 mars, le FBI envoyait des agents à l'assaut de sa maison du New Jersey pendant qu'il était à table avec sa famille. Après avoir fouillé les lieux, les agents se rendirent rapidement à la Hallett Chemical, l'entreprise où ils travaillaient. Ils y recueillirent les relevés téléphoniques et bancaires qui démontreraient peut-être qu'il avait un lien avec Salamé. La preuve la plus convaincante de l'implication d'Hyatt dans la fabrication de bombes se trouvait dans son ordinateur. On le confisqua avant de l'examiner attentivement.
Notre équipe technique est parvenue à récupérer un dossier effacé. Il s'agissait d'une lettre où l'auteur revendiquait l'explosion du World Trade Center au nom d'une organisation connue sous le nom de 5e bataillon de l'armée de libération.
Le New York Times avait reçu cette lettre 4 jours après l'explosion. L'organisation y déclarait qu'il s'agissait d'un attentat terroriste pour protester contre le soutien des États-Unis à Israël. L'ordinateur contenait également une autre lettre qu'Hyatt n'avait pas eu le temps d'envoyer. Cette lettre annonçait une deuxième explosion. Même si l'enquête progressait rapidement, chaque nouvelle découverte laissait entrevoir l'existence d'un important complot toujours en cours. Chaque jour, la possibilité qu'il y ait de nouvelles attaques grandissait. Pendant que le FBI tentait d'en apprendre le plus possible des suspects principaux de l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salamé et Hyatt mettaient tous leurs efforts à préparer leur défense. L'analyse des relevés téléphoniques confisqués mena les enquêteurs à un appartement de Jersey City. Le propriétaire de l'immeuble du 40 Pam Rapo Avenue confirma que Salamé ainsi qu'un autre individu avaient loué l'appartement au début de janvier 1993 jusqu'à la fin du mois de février suivant, soit seulement 2 mois plus tard. Le propriétaire ne put dire qui était le locataire de Salamé. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il se prénommait Rachid. Ce prénom était probablement faux. On fit rapidement émettre un mandat de perquisition. Lors des fouilles, les agents purent confirmer qu'on avait de fait fabriqué des bombes à l'appartement ci au 40 par Rampo Avenue. C'est à cet endroit que les complices avaient mis au point un engin explosif assez puissant pour ébranler tout le sous-sol du World Trade Center. Dans l'appartement ainsi que dans le garage adjacent, les experts judiciaires du FBI trouvèrent des traces d'une série de produits chimiques. Ils les acheminèrent illico au laboratoire du FBI à Washington. Au cours de leur recherche dans l'appartement, les agents découvrirent l'identité du mystérieux colocataire de Salamé. En effet, des formulaires précisaient qu'un certain Ramzi Youssef avait demandé l'asile politique aux États-Unis. Selon ces mêmes documents, il avait été arrêté en septembre 1992 à l'aéroport Kennedy, faute d'avoir pu présenter un visa à son arrivée au pays. L'appartement de Parampo Avenue était une véritable mine d'or pour le FBI. Avant cette fouille, les experts du laboratoire du FBI n'avaient pu qu'émettre des hypothèses à partir des résidus recueillis au World Trade Center. Ils croyaient que les auteurs de l'attentat s'étaient servis de nitrate d'urée, un composé très instable. Mais maintenant, depuis la découverte de la fabrique de bombes de Parampo Avenue, ils en étaient certains. Du laboratoire du quartier général du FBI à Washington, l'agent spécial Roney transmit ses conclusions.
Suite à l'analyse en laboratoire, nous avons conclu que la bombe était composée de nitrate d'urée. Le produit avait été mis au point de façon artisanale. Il n'en existe pas sur le marché. Après qu'on ait trouvé l'endroit où ils avaient fabriqué cette bombe, on a pu confirmer cette hypothèse. En effet, les résidus recueillis dans l'atelier étaient en tout point identiques à ce dont nous disposions en laboratoire.
On poursuivit l'examen de relevés téléphoniques et l'on interrogea de nombreux voisins. On voulait savoir surtout à quel endroit la conspiration s'était orchestrée. Toutes les personnes questionnées mentionnèrent avoir aperçu un individu en compagnie de Salamé et Ramzi Youssef. Par les relevés téléphoniques, on détermina qu'il s'agissait de Mahmoud Abou Halima. Les agents enquêtaient sur cet individu lorsqu'ils apprirent qu'il avait quitté le pays peu de temps après l'attentat à la bombe. Les autorités connaissaient déjà ce Abou Halima en raison de ses liens avec El Saïd Nasser. Abou Halima était également un proche de l'intégriste religieux Cheikh Omar Abdul Rahman, qui serait plus tard condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour avoir participé à des complots visant à détruire plusieurs immeubles importants de New York. Peu de temps après qu'on ait appris qu'Abou Halima avait fui le pays, les autorités égyptiennes contactèrent le FBI pour leur annoncer qu'ils avaient arrêté le suspect au Caire et qu'ils le détenaient. Abou Halima était aussi recherché en Égypte pour avoir comploté contre le président du pays, Hosni Moubarak. Les gouvernements américains et égyptiens en arrivèrent rapidement à une entente concernant le suspect. Des agents du FBI s'envolèrent pour le Caire pour aller y chercher Abou Halima. Lorsqu'il fut remis aux mains des agents, le suspect portait des menottes et sa tête était complètement recouverte d'un morceau de tissu. Il pensait qu'il s'en allait droit à son exécution. C'est avec soulagement qu'il vit les agents du FBI venus le chercher. Il leur parla donc librement lors du vol de retour vers New York.
Il a fait plusieurs commentaires dont on a pu servir contre lui lors de son procès. Une de ses phrases clés a été « Vous êtes au courant pour Rachid ?» On a su plus tard que c'était le faux nom de Ramzi Youssef.
Abou Halima déclara à Stern que Youssef et lui s'étaient rencontrés en Afghanistan au camp secret du mouvement de libération armée des Moudjahidines, un camp d'entraînement où se retrouvaient des terroristes internationaux. Le nom de Ramzi Youssef apparaissait à chaque étape de l'enquête. Ce terroriste international était également expert en explosifs. Les agents croyaient qu'il avait orchestré l'attentat à la bombe du World Trade Center. Le FBI se mit dès lors à la recherche de Youssef. Les agents apprirent bientôt que celui-ci avait quitté le pays le soir de l'attentat à la bombe. On commença des recherches internationales pour retrouver ce suspect. Parallèlement, d'autres agents du FBI essayaient de découvrir à quel moment il était venu aux États-Unis et par quels moyens de transport. Certains ont affirmé que le terrorisme était arrivé aux États-Unis le jour même où Ramzi Youssef y avait foulé le sol. Le 1er septembre 1992, l'expert en explosifs afghan arriva à l'aéroport Kennedy à New York. Un examen minutieux de la liste des passagers à bord du même vol que lui permit au FBI de découvrir un autre indice. Youssef n'était pas venu seul. Un certain Ahmed Hajjaj l'accompagnait. Les agents des douanes l'avaient d'ailleurs détenu car il avait présenté un faux passeport suédois. Ses valises contenaient plusieurs ouvrages traitant de fabrication de bombes et de techniques de guérilla. On lui avait confisqué sa valise et on l'avait fait incarcérer pour fraude. On pouvait en déduire qu'Ajaj ne faisait vraisemblablement pas partie du complot. Il était en prison depuis septembre 1992 et l'attentat à la bombe du World Trade Center avait eu lieu en février 1993. Selon les règles en vigueur dans cette prison, tous les appels étaient enregistrés. Ajaj avait laissé une piste sans le savoir et les agents s'empressèrent de la suivre.
On s'est vite rendu compte qu'il était resté en contact avec les autres conspirateurs de diverses façons, mais surtout en faisant des appels à trois, c'est-à-dire qu'il appelait quelqu'un qui, à son tour, relayait les appels à un troisième homme. De fait, il aidait ses comparses à réussir leur mission. Fabriquer cette bombe.
Les agents du FBI interrogèrent Ajaj à propos de ses contacts et de ses connaissances en explosifs. Même s'il parla peu, son silence n'empêcha pas les agents du FBI de le faire accuser relativement à l'attentat à la bombe. Avec ses quatre suspects maintenant en détention, les autorités décidèrent d'ouvrir le procès, même si on était toujours à la recherche d'autres complices. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salameh, Hayad, Abu Halima et Ajaj comparurent à la Cour fédérale à New York.
Au moment où le procès a commencé en septembre 1993, il nous a fallu mener deux enquêtes de front. On devait continuer d'identifier tout complice et retrouver les fugitifs en plus de se préparer pour ce procès qui allait durer six mois et ne se terminer qu'en mars 1994.
À ce moment-là, les experts avaient examiné les nombreuses scènes de crime. Le World Trade Center. L'unité d'entreposage. Et l'atelier de fabrication des bombes. De plus, on avait récupéré 70% de la camionnette ayant servi au transport de la bombe. On disposait également de quantités de reçus, de relevés téléphoniques et de rapports d'interrogatoire. On avait recueilli des tonnes d'indices. Il ne restait plus maintenant qu'à déterminer si cela suffirait au jury. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, le procureur était prêt à dire au jury comment les accusés avaient mené à terme cet acte de terrorisme. Tout avait commencé peu de temps après l'arrivée de Ramzi Youssef aux États-Unis en septembre 1992. Il avait emménagé avec Salameh et les deux hommes étaient devenus amis. Leur amitié était fondée sur leur haine commune d'Israël et sur leur volonté d'obliger les États-Unis à cesser tout appui au gouvernement israélien. Ils avaient choisi le World Trade Center pour mener leur projet à terme. Les tours jumelles du World Trade Center étaient les plus hautes de la ville. Elles s'élevaient à 400 mètres au-dessus du sol. Le complexe comprenait aussi l'hôtel Vista, de nombreuses aires de boutiques souterraines, de même que des couloirs qui menaient au métro de New York et du New Jersey. Sous ces couloirs se trouvait un stationnement souterrain de 5 étages comprenant également des bureaux. Les terroristes croyaient que leur bombe serait plus meurtrière si elle était placée dans le stationnement souterrain. Le plan fut mis en action. Des reçus indiquaient qu'en novembre, Youssef avait acheté des produits chimiques sous un faux nom. Il avait effectué d'autres achats tout au long de l'hiver, tout en peaufinant la composition de sa bombe et en établissant le plan de son attentat. Les produits chimiques étaient livrés à l'unité d'entreposage de Space Station. Salameh et Youssef signaient les reçus de réception de ces colis en se servant de faux noms pour qu'aucun document ne mène la police jusqu'à eux. Les manuels de fabrication de bombes d'Ajaj, confisqués lors de son arrivée aux États-Unis, manquaient à Youssef. Il avait donc mis au point un système de communication à trois personnes pour parler secrètement avec Ajaj en prison depuis New York ou encore depuis son appartement du New Jersey. Youssef appelait d'abord son ami Hayad Ismail, travaillant dans un comptoir à hamburger à Dallas, au Texas. Hayad appelait ensuite Ajaj pendant que Youssef attendait sur son autre ligne.
Non.
Quand Ajaj répondait au téléphone en prison, Ismail le mettait en contact avec Youssef. Ainsi, les trois hommes pouvaient discuter ensemble de leur plan. Le 16 février, il loue une voiture pour aller voir le World Trade Center de plus près. Les empreintes digitales de Salameh sur le volant démontraient qu'il conduisait. On avait trouvé ces empreintes sur le billet de stationnement du deuxième niveau B. Les agents disposaient aussi d'un croquis de la main d'Ayad de cet étage du stationnement. Puis, 4 jours avant l'attentat, à la demande de Youssef, Ayad Ismail partit de Dallas pour se rendre à New York en vue de participer à la fabrication de la bombe. Ismail devait également conduire la camionnette transportant l'engin explosif dans le stationnement. C'était quelqu'un en qui Youssef faisait confiance. De plus, il avait déjà été chauffeur de taxi à New York. Il était compétent pour mener cette délicate opération. Le 23 février, Salamé se rendit à la compagnie de location de voitures DIB et loua la camionnette Ford. En échange, il laissa une caution de $400. La bombe était presque terminée. Il ne restait plus qu'à faire une dernière visite de reconnaissance du stationnement souterrain du World Trade Center. À bord d'une Chevrolet Corsica Bordeaux louée par Hayad, dont le second conducteur, selon les documents, était Salamé, les complices se rendirent au stationnement avec Youssef et Ismail pour déterminer à quel endroit précis laisser la bombe. On montra au juré un autre billet de stationnement qui confirmait cette visite, la marque de la voiture, de même que le niveau où elle avait été garée, B2. Le 25 février, à l'appartement d'Abu Halima sur Parampo Avenue, celui-ci, aidé de ses complices, mélangea soigneusement de l'acide sulfurique et nitrique avec de la glycérine pour en faire un composé fatal et très volatile, de la nitroglycérine. On estime à 550 kg la quantité de cristaux d'urée mêlée à plusieurs litres d'acide citrique. Puis les complices versèrent le mélange dans de gros barils de métal où il se transforma en masse gélatineuse. Quand ce fut fait, le tout fut versé dans des poubelles de plastique. L'un des hommes recula la camionnette dans l'entrée derrière l'immeuble, vis-à-vis de l'escalier menant à l'appartement, pour que les autres puissent charger en secret leur dangereux engin explosif dans la camionnette. Un cocktail de produits chimiques, un agent liant, un fusible et un détonateur. Ils transportèrent d'abord les poubelles de plastique, au milieu desquelles ils avaient placé la nitroglycérine. Ils avaient relié entre eux 4 longs fusibles à l'aide d'un fil qui passait à travers des tubes du genre de ceux qu'on utilise dans les salles d'opération. De cette façon, il y aurait moins de fumée et le fil brûlerait moins rapidement, ce qui donnerait le temps aux terroristes de s'enfuir. Les fusibles étaient reliés à des amorces et à des boîtes de poudre explosives, puis insérés dans chacun des contenants de nitroglycérine. Il ne manquait plus que l'hydrogène qui rendrait l'explosion encore plus dévastatrice. Suivi par Hayad à bord de sa Corsica, les hommes se rendirent à Space Station pour y prendre l'hydrogène. Après l'avoir mis avec beaucoup de soin dans la camionnette, ils calèrent les 3 réservoirs rouges derrière les boîtes de nitro contre les portes arrière. Youssef et Ismail se rendirent ensuite avec la camionnette à un hôtel de Manhattan. Les fichiers de l'hôtel montraient qu'Ismail avait réservé une chambre pour la nuit du 25 février. Ils garèrent la camionnette pour la nuit à l'abri des regards. Le lendemain, les terroristes n'avaient plus qu'à se rendre au World Trade Center. Il était environ midi 2 minutes, le vendredi 26 février 1993, lorsque la camionnette arriva au niveau 2 du stationnement souterrain du World Trade Center. Ismail conduisait la camionnette, tandis que Youssef était assis dans le siège du passager. La Corsica Bordeaux suivait. Ils garèrent la camionnette dans l'espace de stationnement normalement réservé aux véhicules des autorités portuaires de New York. Comme le World Trade Center appartient à ces autorités, leur parc de véhicules a un accès plus facile aux entrées et sorties du stationnement. La voiture pour prendre la fuite attendait tout près. « un des hommes tint un briquet allumé près d'un fusible. Dès qu'il fut allumé, les hommes s'engouffrèrent dans la Corsica et prirent la fuite. Le feu progressait d'un centimètre toutes les secondes. Il ne faisait aucun bruit, ni fumée, en raison du tuyau chirurgical utilisé par les terroristes. Youssef, Ismail et les autres sortirent du stationnement quelques secondes à peine avant l'explosion. À 12h18, des mois après avoir planifié l'attentat, les terroristes obtinrent ce qu'ils avaient souhaité. L'impact de l'explosion sur le mur de la tour fut colossal. Tout ce qu'il y avait autour fut détruit. Plus tard, le même jour, alors que les sauveteurs et les enquêteurs accouraient sur la scène, Youssef était confortablement assis dans un avion en route vers le Pakistan et Ismail dans un avion pour la Jordanie. Quelques jours plus tard, Abu Halima quitterait les États-Unis à son tour. Si les enquêteurs n'avaient pas trouvé le numéro d'identification du véhicule si rapidement, Salamé aurait sans doute eu le temps de fuir le pays lui aussi. Au cours du procès de 6 mois, le jury entendit 206 témoins et passa en revue un total de 10 000 pages de témoignages. En février 1994, soit un an après l'attentat, le procès prit fin. Le jury ne mit que 3 jours à rendre son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La présidente du jury lut alors 38 déclarations de culpabilité pour complot, destruction de propriété par explosion, transport d'explosifs d'un état à l'autre et enfin meurtre. 3 mois plus tard, le 24 mai 1994, le juge Kevin Duffy condamna chacun des coupables à 1 an de prison pour chaque année de vie volée aux victimes. Ils écopèrent ainsi de 240 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle. La lecture de la sentence dura plusieurs heures car chacun des inculpés fit un long discours. Mohamed Salamé, le chimiste Nidal Hayad, Ahmed Hajjaj, l'homme qui avait apporté les manuels de fabrication de bombes, et Mamhoud Abu Halima, surnommé le Rouge, passeront le reste de leur existence en prison. Ce n'est qu'en février 1995, 2 ans après l'attentat à la bombe du World Trade Center, qu'on arrêta enfin Ramzi Youssef au Pakistan et qu'il fut remis aux mains d'agents du FBI. C'est l'agent Stern qui fut envoyé pour le ramener aux États-Unis. Youssef se déclara prêt à parler. Il haïssait les Américains pour leur aide aux Israéliens. Il déclara à Stern qu'il avait choisi le World Trade Center comme cible car c'était le plus important symbole de l'impérialisme américain. La dernière arrestation eut lieu 6 mois plus tard, en juin 1995. Hayat Ismail fut trouvé et arrêté en Jordanie. On le ramena à son tour aux États-Unis pour qu'il soit jugé pour son rôle dans l'attentat. Youssef et Ismail comparurent en même temps à New York. En janvier 1998, après qu'ils eurent été trouvés coupables des mêmes 38 chefs d'accusation que leurs complices, un juge les condamna tous deux à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Une fois les coupables incarcérés, le FBI, de même que les autres services policiers américains, ont pu enfin faire le point sur cette enquête.
L'attentat à la bombe du World Trade Center a constitué un réveil brutal pour nous tous au sein des forces policières. C'était à ce jour le plus important attentat terroriste au pays. Bien que le terrorisme soit présent aux États-Unis depuis plusieurs années, le fait qu'on s'en soit pris au World Trade Center était plus terrifiant que ce qui s'était produit auparavant.
Le FBI est parvenu à résoudre ce complot rapidement et à punir les coupables. Mais cette catastrophe, aussi épouvantable fut-elle, n'a été que le signe annonciateur du séisme qui devait avoir lieu en septembre 2001 au même endroit. Le terrorisme n'était pas terminé. Le sera-t-il un jour ? Philadelphia, au Mississippi, en 1964. Cette petite ville du Sud, ancrée dans la tradition, est le centre d'une invasion. À travers tout le Sud des États-Unis, le racisme qui sévit sera bientôt remis en question, mais non sans un dernier combat. Au cours de cette lutte, trois militants des droits civiques disparaîtront, attirant l'attention du monde entier sur cette population paisible aux secrets brûlants. Au début des années 60, les gens du Mississippi ne sont pas différents des gens d'ailleurs. Ils sont fiers de leur ville et de leur village. Ils croient fermement en leurs valeurs et répugnent au changement. Mais un vent nouveau s'apprête à souffler sur le Mississippi et ce vent vient du nord. À l'été 1964, 1000 étudiants d'université du nord des États-Unis se préparent à aller au Mississippi pour encourager la population noire à voter. En juillet, le président Johnson s'apprête à signer un nouveau projet de loi sur les droits civiques. C'est en quelque sorte le début de la fin de l'oppression des Noirs. Mais des générations de haine ne peuvent être éliminées par une simple loi. Le mouvement estudiantin est mis sur pied par le COFO, le Conseil des organisations fédérales. Ce groupe réunit une kyrielle d'organisations vouées à la défense des droits civiques des Noirs. La mission a été nommée Summer Project, ou projet d'été. Joe Sullivan, alors agent du FBI, nous raconte.
Très rapidement, les habitants de la région ont perçu cet événement comme étant l'invasion d'été du Mississippi. Ils étaient plutôt mécontents. C'est un peu la genèse du problème.
Plus l'arrivée des étudiants approchait, plus la population locale était réfractaire. Pendant la journée, la vie suivait son cours normal, même si les gens chuchotaient entre eux à propos des mauvais moments à venir. Mais le soir, leurs mots se transformaient en gestes. C'est le moment que le Ku Klux Klan, l'Empire invisible, choisissait pour créer des remous. Il ne resterait pas invisible pour très longtemps. Les activistes des droits civiques, qui recevaient leur entraînement dans l'Ohio, n'ignoraient pas qu'ils seraient mal accueillis, mais ils n'avaient pas la moindre idée de la réelle portée de leurs actes. Pour les membres du COFO, le Mississippi et son long passé de ségrégation et de racisme fanatique étaient la cible la plus difficile à atteindre qui soit. Mais ce serait également leur plus grande victoire. Bob Moses était l'un des organisateurs de Summer Project.
Dans l'esprit de tous les Noirs, le Mississippi est le symbole même du racisme. Pendant que nous organisions la campagne, une question nous hantait. On pouvait passer la nouvelle loi des droits civiques si on le voulait, on pouvait changer des choses, mais à moins qu'il n'y ait de réels changements au Mississippi, on ne pourrait pas se débarrasser de l'infection du racisme, parce que son foyer était le Mississippi.
6 mois avant l'arrivée des étudiants sur place, Michael Schwerner, 24 ans, quitte à New York pour s'établir à Meridian, au Mississippi, pour mettre sur pied la base des opérations. Schwerner rencontra le pasteur de l'église méthodiste de Mount Zion de Longwood pour lui demander s'il acceptait de leur prêter l'église pour les réunions du COFO. La population noire de Longwood avait cohabité pacifiquement avec ses voisins de race blanche. Maintenant, elle était au centre d'une situation délicate. Le conseil de l'église devait soupeser les pour et les contre, c'est-à-dire l'avancement des droits civiques ou bien d'éventuelles représailles pour la population noire. Le conseil termina sa réunion sans en arriver à un accord. Mais le Ku Klux Klan allait prendre une décision à leur place. De nombreux membres de l'église, dont des femmes, furent sauvagement battus. Plus tard, au cours de la soirée, l'église de Mount Zion fut incendiée. La police locale ne fit pas d'enquête. Mais le FBI se pencha sur l'affaire. Les agents du FBI voulaient s'assurer qu'il n'y avait pas eu d'infraction fédérale. Ils savaient bien qu'une fois les étudiants arrivés, l'été serait long et très chaud. Le dossier fut nommé Mississippi Burning. Les agents menèrent leur propre enquête, demandant aux membres de l'église ce qu'ils avaient vu le soir de l'incendie. Les membres du Ku Klux Klan étaient masqués, mais des témoins se rappelaient avoir aperçu un homme à bord d'une camionnette portant un chapeau de shérif. Un représentant de la loi était donc vraisemblablement impliqué dans l'affaire. Cela n'avait rien de surprenant. Beaucoup de gens du Sud n'acceptaient pas la volonté du gouvernement fédéral de forcer l'intégration. Les autorités locales cherchaient souvent à maintenir la situation telle quelle.
La tendance générale était de se méfier du gouvernement fédéral. La population s'opposait à toutes nos tentatives de changement. Ils nous percevaient comme des ennemis. Les Noirs n'étaient plus leurs seuls ennemis, le gouvernement fédéral l'était tout autant.
Jim Ingram, qui est aujourd'hui membre de la commission de sécurité publique pour le Mississippi, était alors agent du FBI à Jackson dans les années 60. Au cours de cette période, c'était un travail très ingrat.
Nous parcourions l'État. Nous pouvions nous trouver à Natchez ou à Philadelphia. Ou alors, nous étions à Hattiesburg, où nous enquêtions sur des crimes commis contre des habitants du Mississippi. Nous étions toujours loin des nôtres, et on nous envoyait des menaces. Nous trouvions des serpents dans nos boîtes aux lettres, par exemple. Il fallait toujours verrouiller les portières de notre voiture. On ne savait jamais ce qu'on allait y trouver en montant à bord. On nous menaçait également de s'en prendre à nous et à nos familles.
Malgré toutes ces tentatives d'intimidation, le nombre d'agents du FBI allait bientôt être multiplié par 100 dans cet état. Michael Schwerner travaillait à l'installation du centre d'opération du COFO à Meridian, au Mississippi, avec sa femme Rita. James Cheney, un jeune plâtrier de 20 ans, se joignit à eux. Cheney était né à Meridian. Il connaissait la façon de vivre et le climat politique de la région. Michael Schwerner, 24 ans, était un jeune homme de tendance libérale du Bronx. Il avait obtenu sa licence en sciences sociales d'une grande université. Ses antécédents étaient fort différents de ceux de Cheney. Et pourtant, les deux jeunes hommes partageaient les mêmes objectifs. Les amis de Schwerner l'appelaient Mickey, un diminutif qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre à l'extérieur du bureau.
La population de la ville, et je me réfère surtout aux membres du clan, l'appelait le bouc parce qu'il portait une barbiche. Il disait qu'il était le diable.
Bientôt, Andrew Goodman, 20 ans, se joignit à Schwerner et Cheney. Ce bénévole était originaire de Queens, dans l'État de New York, et il avait terminé son entraînement seulement une semaine plus tôt dans l'Ohio. Rita Schwerner retourna à New York pendant que les trois hommes et d'autres bénévoles préparaient l'accueil du premier groupe de 200 travailleurs sociaux originaires du Nord. La première vague de l'invasion devait arriver le 21 juin 1964. Ce matin-là, Schwerner, Cheney et Goodman se rendirent en voiture à Longwood, à 56 km de Meridian. Ils devaient y rencontrer des membres de l'église de Mount Zion pour discuter de l'incendie qui avait eu lieu 5 jours plus tôt. Cheney, qui connaissait le secteur, prendrait le volant. Ils étaient en quelque sorte l'avant-garde de cette marche pour la paix et ils n'étaient pas sans savoir que le danger les guettait. Ils s'en tenaient à une consigne stricte. Ne pas quitter l'autoroute, coopérer avec les autorités et ne jamais voyager de nuit. Ils avaient prévu rentrer au cours de l'après-midi. Schwerner demanda à ses employés d'appeler le bureau du COFO à Jackson si jamais il n'avait pas de ses nouvelles avant 16 heures. Il n'appela jamais. Les membres du COFO avisèrent le FBI lorsqu'ils constatèrent que Mickey Schwerner n'avait pas appelé au bureau tel que prévu. Les agents se mirent en contact avec les autorités de la région pour savoir si quelqu'un avait aperçu Schwerner, Cheney et Goodman. Il y avait une piste. Selon le shérif adjoint Cecil Price de Neshoba County, le trio rentrait de Longwood quand il leur avait demandé de se ranger près de Philadelphia, à 60 km de Meridian. Il les avait conduits à la prison du comté de Philadelphia. Cheney avait été mis en détention pour excès de vitesse. Les deux autres hommes étaient détenus à cause de leur rapport avec l'incendie de l'église de Mount Zion. Cheney fut enfermé dans une cellule destinée aux prisonniers noirs. Quant à Schwerner et Goodman, ils partageaient une autre cellule. Ils n'eurent l'autorisation de téléphoner qu'à la fin de la journée, soit quelques heures après 16 heures, heure à laquelle ils avaient convenu d'appeler le COFO. Selon une autre personne qui partageait leur cellule, lorsque la femme du geôlier dit à Schwerner qu'il pouvait faire un appel à frais virés, il refusa son offre. Personne ne sut jamais pourquoi. Finalement, Schwerner paya la caution de $20 de Cheney et l'agent Price libéra les hommes. Il était alors 22h30. On ignorait ce qui avait pu leur arriver ensuite. L'agent Sullivan craignait pour la vie des trois militants dans l'affaire du Mississippi Burning. Il soupçonnait qu'ils n'avaient pas simplement été libérés de prison, mais qu'ils avaient vraisemblablement été livrés aux membres du Ku Klux Klan.
C'était le genre de crime auquel j'étais habitué. On emprisonne un individu et puis on le livre plutôt que de vraiment le libérer. J'étais habitué à cette façon de procéder et j'étais à peu près sûr que c'était ce qui s'était produit.
Le point de départ de l'enquête était le shérif adjoint Price, la dernière personne à avoir vu Schwerner, Cheney et Goodman. Ce dernier s'en tint à la même version. Il les avait libérés vers 22h30, mais ne pouvait pas rendre compte de ses propres allées et venues à lui au cours de l'heure suivante. Joe Sullivan avait été dépêché de Memphis pour mener cette enquête. C'était la seule piste et elle était bien mince.
Le bureau du shérif était complice, j'en étais convaincu. Mais je n'avais aucune preuve. Tout ce que je savais, c'était que ce n'était pas la première fois qu'une situation de ce genre se produisait. J'ai commencé dès lors à faire attention à l'information que je révélais selon la personne à qui je m'adressais.
Les agents du FBI se mirent à la recherche des trois jeunes hommes. Personne ne les avait vus, du moins c'est ce qu'on disait. Puis le 23 juin, 2 jours après leur disparition, on retrouva leur véhicule. Deux Indiens Choctaw d'une réserve indienne voisine avaient aperçu leur véhicule en flammes le lendemain soir. La voiture avait été incendiée dans un marécage appelé Bogchito, à seulement 20 mètres de l'autoroute près de Philadelphia. Lorsqu'ils se rendirent compte qu'il ne s'agissait pas d'un événement anodin, ils appelèrent le FBI. L'agent spécial Jay Cochran de Washington fut dépêché sur les lieux. Cet expert en armes à feu et en explosifs avait déjà une longue expérience des conflits reliés à la cause des droits civiques. En apercevant la voiture, il savait qu'il aurait du mal à trouver des indices.
Par l'examen du véhicule incendié, nous tentions de retrouver des restes humains. Nous cherchions aussi un indice qui nous aurait aidé à savoir ce qui était arrivé à ces militants des droits civiques.
La voiture était trop endommagée pour fournir la moindre information. Mais tout près, quelque chose donnait à espérer. C'était une montre et les clés d'une voiture. On établit que c'était la montre de Schwerner. Elle s'était arrêtée à 12h45. La nouvelle de cette découverte se propagea comme une traînée de poudre.
Le véhicule venait à peine d'être découvert que la nouvelle circulait déjà sur le téléx de la police et la radio, etc., etc. Nous nous sommes retrouvés avec une foule de curieux à Bogchito et cela nous rendait la situation difficile.
La découverte n'allait pas à l'encontre de l'hypothèse d'un coup monté. Mais pour les enquêteurs, il n'y avait guère d'espoir de retrouver ces hommes vivants.
Dès le début, nous savions que nous ne quitterions pas les lieux avant d'avoir retrouvé les corps. Hoover ne l'aurait pas toléré, le public non plus. Nous devions retrouver ces corps, peu importe le temps requis.
À l'été, l'invasion d'étudiants commença. Les yeux du monde entier se rivèrent sur le Mississippi. À Neshoba County, le shérif adjoint Price et son supérieur Lawrence Rainey refusaient de parler aux journalistes. Pour eux, la disparition de trois militants des droits civiques ne méritait pas toute cette attention. Les recherches se poursuivaient. Quatre cents marins de la base aéronavale de Meridian étaient de service. Ils se relayaient les uns les autres. Ils fouillaient dans les bois et les cours d'eau. Les agents du FBI apprirent alors que le corps d'un homme de race noire avait été repêché dans le fleuve Mississippi, près de Vicksburg. Ils se rendirent sur les lieux pour enquêter à ce sujet. Vicksburg était à 225 km de distance, mais il était possible que le corps de Cheney ait été emporté par le courant. C'était leur seule piste.
Nous avons alors découvert que ce n'était pas le cadavre d'un des militants des droits civiques, mais plutôt la victime d'un lynchage du Ku Klux Klan.
Ce ne serait pas la seule fausse piste au cours de cet été. On retrouva d'autres victimes de lynchage. Certaines de ces disparitions n'avaient jamais été signalées parce que dans ces secteurs, le Ku Klux Klan faisait la loi. La priorité du FBI était de retrouver les trois militants, même si son but ultime était de démanteler le Ku Klux Klan. Pendant que les étudiants poursuivaient leur travail, la chaleur torride du Mississippi échauffait les esprits. Les activités du Ku Klux Klan s'intensifièrent. Au cours de cet été, plus de 60 églises, commerces et maisons appartenant à des Noirs furent incendiées. Et ce n'était que le début.
J'ai vu cette violence, ces tueries. J'ai vu des gens sans toit à cause des incendies. J'ai vu des églises brûler en pleine nuit et des vies perdues absolument pour rien. J'ai vu tous ces crimes, commis par un groupe de personnes convaincues d'avoir raison.
Afin de réduire l'emprise du Ku Klux Klan sur le Sud, le président Johnson donna au FBI l'autorisation d'ouvrir un nouveau bureau à Jackson, au Mississippi, 3 semaines après la disparition des 3 militants. Pendant que certains agents continuaient de faire des fouilles dans le marécage, d'autres frappaient aux portes pour trouver des pistes. La population était polie, mais ne coopérait pas. La stratégie du FBI était de diviser pour mieux conquérir. Des agents participaient au rallye du Ku Klux Klan, prenaient des photos, notaient les numéros des plaques d'immatriculation, jusqu'à ce qu'on finisse par leur demander de quitter les lieux. Heureusement, ils avaient eu le temps de recueillir les informations qu'ils voulaient.
Quand on rencontrait de nouveau certaines personnes, elles nous assuraient qu'elles ne faisaient pas partie du clan. Oui, mais pourquoi étiez-vous à l'une de leurs réunions si vous n'en faites pas partie? Saviez-vous qu'ils ont fait exploser une église? Saviez-vous qu'ils ont détruit une école où l'on tentait de mettre un terme à la ségrégation raciale? Est-ce que c'est également votre façon de voir les choses? La plupart nous répondaient que non. Le fait d'aller à ces rencontres nous permettait d'en décourager plusieurs. Certains ne s'y rendaient plus parce qu'ils craignaient qu'on leur rendrait ensuite visite.
D'autres personnes étaient plus difficiles à convaincre. On assigna des agents à chacun des membres du clan pour les surveiller. Si un acte quelconque de violence avait lieu, l'agent avait la responsabilité de communiquer avec le membre du clan dont il était responsable et l'interroger à ce sujet.
Ils ont rapidement manifesté leur mécontentement de se faire réveiller à 3 heures du matin lorsqu'un crime avait été commis 4 comtés plus loin. Après un certain temps, leurs femmes nous ont demandé d'arrêter. Leurs enfants voulaient aussi qu'on cesse de les harceler. C'est alors que nous avons pu ouvrir le dialogue et qu'ils ont compris qui nous étions. Nous nous appelions par nos prénoms.
Bientôt, certains informateurs se manifestèrent. Certains d'entre eux étaient des épouses, d'autres des membres du Ku Klux Klan rongés par la culpabilité. Ils fournissaient des bribes d'informations à l'insu de leurs voisins. Pour encourager ces informateurs, des organismes des droits civiques et religieux débloquèrent des fonds pour les payer. Le voile de silence commençait enfin à se lever. Un informateur suggéra aux agents d'interroger un jeune homme du nom de Will Murphy Jones. Ce dernier avait 19 ans. Il vivait à Chicago. Il était parti brusquement de Philadelphia environ 3 semaines avant la disparition des hommes. Il n'était pas parti de son plein gré. Il déclara aux agents que ses problèmes avaient commencé le 1er juin. Il s'était rendu dans une bijouterie pour faire agrandir sa bague de graduation. La femme qui l'avait servie était plutôt hésitante, mais elle avait tout de même accepté de la réparer. Peu de temps après, il fut arrêté par le shérif Rainey et l'agent Price. Ils le mirent en détention, présumément pour avoir demandé à la jeune femme de sortir avec lui. On ne lui accorda pas la permission de téléphoner. Lorsqu'il fut enfin libéré, peu après minuit, un gang d'hommes l'attendait. Ils le saisirent et le forcèrent à monter dans une camionnette. Ses ravisseurs le conduisirent dans un endroit isolé. Ils tentèrent ensuite de le forcer à avouer qu'il avait fait des avances à la jeune femme. Will Murphy Jones jura qu'il n'avait rien fait. Les hommes étaient prêts à le tuer sur place. Puis l'un d'entre eux, qui se faisait appeler le pasteur, décida de l'épargner. Il dit à Jones de quitter la ville pour toujours, sinon il serait un homme mort. Jones monta à bord du premier autobus qui quittait la ville. Le récit de Will Murphy Jones apparaissait un peu comme le scénario probable de la disparition des 3 militants. Mais sans doute ces derniers n'avaient-ils pas eu autant de chance. Ils avaient été assassinés.
But here now, we have some additional evidence about
Nous avions d'autres indices sur ce qui est arrivé aux individus qui étaient mis en détention dans une prison, et puis sur la façon dont on se débarrassait d'eux. Si cela s'était produit une fois à Neshoba County, cela avait pu se produire à nouveau.
Les agents croyaient que Jones pouvait les aider à retrouver le corps des trois militants des droits civiques. Ils lui demandèrent de les conduire à l'endroit où le gang l'avait battu. Les recherches furent vaines. Entre-temps, Sullivan gagnait peu à peu la confiance d'un informateur éventuel. Cet informateur ne parlerait qu'à condition de rester dans l'anonymat le plus complet. Son identité n'est pas connue à ce jour, puisqu'on pourrait encore chercher à le tuer. On l'a surnommé Monsieur X. Le 31 juillet 1964, Monsieur X accepta enfin de s'ouvrir à l'agent Sullivan.
Après avoir échangé quelques banalités, je lui ai demandé s'il allait pouvoir révéler quelque chose de significatif. Il m'a dit qu'il pensait savoir où se trouvaient les corps. Je lui ai demandé de me dire où.
Selon M. X, Goodman, Cheney et Schwerner avaient été enterrés sous une digue à Old Jolly Farm. Cette ferme appartenait à Olin Burridge, l'un des hommes les plus riches du comté. Les agents ne pouvaient s'y rendre immédiatement. Ils savaient que le Ku Klux Klan épiait leur moindre mouvement. Ils ne voulaient pas qu'ils se doutent qu'un informateur leur avait donné cette piste. Ils obtinrent finalement le mandat de fouiller Old Jolly Farm. Sullivan envoya l'agent Cochrane au site accompagné d'autres agents. En arrivant sur les lieux, ils constatèrent que les recherches ne pourraient se faire par de simples coups de pelle. La digue n'était pas encore terminée. Elle faisait 165 mètres de long, 6 mètres de haut et 3 mètres de large à son sommet. On pouvait présumer que les corps n'avaient pas été enterrés, mais plutôt que la digue avait été érigée directement par-dessus eux. Les agents désiraient garder secret leurs travaux d'excavation, mais cela serait difficile. Ils devaient trouver un entrepreneur étranger qui disposait de la machinerie nécessaire pour déplacer la terre. Le 4 août, la machinerie était en place. On demanda à l'entrepreneur quelle était la meilleure façon d'enlever la terre.
Cochrane lui a demandé à quel moment cette digue avait été construite, comment elle avait été faite, pourquoi elle avait cette forme et combien de temps avait été requis pour l'ériger.
Il m'a répondu, « Eh bien, vous savez assurément ce que vous recherchez. » Ce à quoi je n'ai pas répondu. En aucun moment au cours des pourparlers, nous n'avons dit clairement, ni à l'équipe d'ouvriers, ni au contremaître, l'objet de nos recherches. Mais il eût fallu qu'ils aient été idiots pour ne pas savoir ce que nous cherchions.
Le contremaître donna ensuite aux agents un coup rapide en construction de digues. Cochrane planta ensuite un bâton dans le sol pour indiquer à quel endroit il voulait qu'on commence les travaux d'excavation. Puis subitement, par un geste qui est devenu légendaire dans les annales du FBI, il changea d'avis.
Cochrane a repris son bâton et pour une raison que son ange gardien est seul à connaître, il s'est déplacé de 5 mètres et il a replanté son bâton en disant « Creusez plutôt ici ». C'était là que se trouvaient les corps.
Les travaux, qui avaient débuté à 8h30, progressaient lentement. À 14h45, la fosse faisait 4 mètres de profondeur. On pouvait déjà sentir l'odeur âcre de la mort. On abandonna la machinerie pour utiliser des outils de jardinage. À mesure que le jour avançait et que le soleil plombait, l'odeur devint plus puissante. Les mouches arrivèrent par centaines, comme pour confirmer la réussite des recherches. Peu après 15h, on retrouva le premier corps à environ 4 mètres de profondeur. On l'identifia grâce au contenu de son portefeuille. C'était Mickey Schwerner. Goodman fut ensuite déterré, puis chaîné.
C'est très difficile à décrire. C'est l'image même de l'inhumanité de l'homme. Tuer des personnes sans raison valable.
Les corps avaient été enterrés depuis plus d'un mois. Il était donc impossible de déterminer immédiatement la cause de leur mort. On dépêcha le coroner. Il était accompagné du shérif adjoint Cecil Price.
Ils sont arrivés sur les lieux comme si cela faisait partie des affaires courantes du shérif. Vous avez trouvé des corps ? Très intéressant. Ils étaient plutôt désinvoltes.
Price et le coroner sortirent les corps de la fosse pour les envoyer à l'hôpital de l'État à Jackson et les faire autopsier.
C'est Cecil Price qui les a emportés. Je ne les ai pas aidés à le faire. Je laissais les autorités locales faire leur travail. C'était leur juridiction. On ne pourrait donc pas nous accuser ensuite d'avoir semé la confusion ou trafiqué les indices.
La présence sur les lieux du shérif adjoint était-elle l'exemple du retour du criminel sur la scène du crime ? En tout cas, il ne laissa rien transparaître.
Les yeux de tous les agents sur la scène étaient rivés sur Price. Je n'ai pas remarqué la moindre réaction émotive, et je crois que personne d'autre n'a remarqué quoi que ce soit non plus.
On procéda à l'autopsie des corps à Jackson. Les trois hommes avaient été tués par une arme à feu. Schwerner et Goodman avaient reçu un projectile, Cheney 3. On retira de la main droite de Goodman une substance dure qui ressemblait à de la roche. Indépendamment de ce qui était arrivé cette nuit-là, il semblait bien que la balle qu'avait reçue Goodman n'avait pas mis fin à son cauchemar.
Nous avons fait analyser la substance par le laboratoire du FBI. C'était de l'argile. Sa composition était identique à celle du sol de la digue. Cela sous-entendait que Goodman était encore en vie au moment où on l'a enterré.
Les projectiles recueillis à partir des victimes furent ensuite analysés au service balistique du FBI. La plupart des 5000 armes qui en constituent la collection sont des armes qui ont été confisquées lors de crimes. Le matériel de recherche a beaucoup évolué depuis 1964, mais le rôle des experts est resté le même. Prouver qu'une telle arme à feu a servi à tirer tel projectile. Aujourd'hui, les tirs d'essai sont sous la responsabilité du superviseur et agent spécial Paul Tundren.
Lorsque la balle passe dans le canon, elle est soumise à des irrégularités. Ces irrégularités sont particulières à chaque arme à feu. La balle est alors marquée par le canon. C'est un peu comme l'empreinte digitale de l'arme.
Les projectiles d'un crime sont examinés côte à côte avec ceux qui sont obtenus lors des tirs d'essai. S'ils ont été tirés avec la même arme à feu, les experts pourront voir le même motif se répéter d'un projectile à l'autre à l'aide d'un stéréoscope. A l'inverse, s'ils n'ont pas été tirés avec la même arme à feu, il n'y aura aucune correspondance.
Il y a beaucoup de marques, mais peu d'entre elles sont identiques. C'est caractéristique de deux projectiles tirés avec deux armes à feu différentes, mais de même modèle.
En ayant recours à des analyses similaires, le FBI en conclut que Cheney avait reçu des projectiles de calibre 38 de deux armes à feu différentes. De plus, les résidus de poudre explosive indiquaient que les trois hommes avaient été tués à bout portant. Le coût approximatif des balles qui avaient tué ces hommes s'élevait à 25 cents. Tout d'un coup, pour la population de Neshoba County, les trois militants des droits civiques n'étaient plus les acteurs d'un coup monté. Ce fut un point tournant dans l'enquête. Les racistes n'acceptaient pas que des hommes blancs aient été assassinés. Selon l'agent Jim Ingram, le FBI ne fut plus perçu comme l'ennemi.
Ils ont alors compris que les meurtriers étaient très violents. La situation s'est modifiée à notre avantage. Les gens voulaient nous aider, particulièrement ceux de la petite ville de Philadelphia. C'était étonnant de voir le nombre de gens nous dire « Écoutez, si ces tueurs sont parmi nous, nous voulons les trouver, les faire arrêter et condamner. »
Le sergent Wallace Miller, de la police de Meridian, était un membre respecté du Ku Klux Klan qui estimait en avoir maintenant assez vu. Il voulait quitter le clan, mais le FBI le convainquit de rester. Maintenant, les agents disposaient d'une taupe. Il y avait enfin une brèche dans les murs de l'Empire invisible. Le sergent Miller prouva qu'il n'était pas impliqué dans les meurtres des trois militants. Il aida le FBI en obtenant des informations de la part des autres membres du Ku Klux Klan. D'autres individus tels que lui commencèrent également à se manifester. Personne ne savait que les autres membres parlaient. Les agents recueillaient les informations. À partir des interrogatoires de divers informateurs, le FBI dressa la liste des membres du Ku Klux Klan impliqués. Les mêmes noms revenaient sans cesse. Les meurtres avaient été planifiés par Sam Bowers, le grand sorcier des chevaliers blancs du Ku Klux Klan. Son bras droit était Edgar Killen. Il était apparemment le pasteur qui avait épargné la vie de Wilmer Faye Jones.
Les informateurs nous donnaient des renseignements de première main. Les individus qui avaient été impliqués dans les meurtres ont même accepté de signer des aveux.
Les aveux menèrent à d'autres aveux. Lentement se dessinaient les événements qui avaient eu lieu. Le plan était d'une simplicité redoutable. Pendant que Schwerner, Goodman et Cheney étaient en détention, le shérif adjoint Price avait appelé le pasteur Killen, qui était alors venu avec d'autres membres du clan. Ils avaient fait le plein d'essence, chargé leurs armes à feu et attendu que les trois hommes soient libérés pour mettre à exécution le plan de leur grand sorcier. Les militants furent remis en liberté à 22h30. Le clan les attendait. Tout près de Philadelphia, les militants remarquèrent dans leur rétroviseur des phares qui se rapprochaient rapidement. Ils accélérèrent jusqu'à 160 km/h pour leur échapper. L'un des trois véhicules eut dératé. La voiture du shérif adjoint Price était l'une des deux autres voitures. Il alluma son gyrophare. Cheney rangea la voiture le long de la route. Price saisit Cheney et le sortit de la voiture. Schwerner et Goodman furent escortés jusqu'à l'arrière de la voiture de police. Alors que Cheney se préparait à les suivre, Price lui asséna un coup de matraque et le poussa dans la voiture. Ils reprirent l'autoroute 19. un des membres du clan conduisait la voiture des victimes. Les meurtres furent commis sans autre forme de procès. Schwerner fut tué le premier. Les voitures s'étaient arrêtées sur une secondaire. On sortit Schwerner de la voiture, on le retourna et on lui tira une balle à bout portant. Goodman fut tué de la même façon. Les membres du clan se gardaient Cheney pour la fin. Il fut tué par deux hommes. Leurs corps furent ensuite remis dans leur véhicule. On les conduisit à Old Jolly Farm, où l'opérateur du bulldozer attendait dans l'obscurité, prêt à enterrer les corps sous 4 mètres d'argile. Puis on conduisit le véhicule des victimes dans les marais, on y versa de l'essence et on y mit le feu. Le 25 novembre, le FBI annonça connaître l'identité de ceux qui avaient tué les 3 militants. Aux États-Unis, les accusations de meurtre sont cependant sous la juridiction de l'État et non du fédéral. Le FBI pouvait seulement faire accuser les membres d'avoir violé les droits civiques des 3 victimes. Il était peu probable que l'État du Mississippi procède à des accusations de meurtre. Plus de 5 mois plus tard, 19 hommes furent accusés de forfaiture, de complot en vue d'opprimer et d'intimider les militants et de les empêcher d'exercer leurs droits constitutionnels. 2 autres hommes furent accusés de complicité car ils savaient que les meurtres devaient se produire. Tous payèrent leur caution et furent libérés. On fixa au 10 décembre l'audience préliminaire.
On se rendait compte de l'envergure des indices que nous avions recueillis. Les photos de la digue, des corps, les photos de l'autopsie, le véhicule incendié, etc., etc. Nous disposions d'une énorme quantité de preuves matérielles, de preuves indirectes qui corroboraient les aveux que nous avions obtenus. C'était une enquête impressionnante et nous avons eu la chance d'avoir dans notre équipe 2 procureurs hors du commun. Nous croyions qu'il serait impossible de discréditer nos preuves, mais nous savions également que le Mississippi traversait une période tumultueuse et n'aimait pas ce que nous avions fait.
Le procès alla mal dès le début. Lors de l'audience préliminaire, le juge refusa les témoignages écrits. Le gouvernement fit pression, et le 11 janvier, un grand jury déclara coupable 18 hommes, dont le shérif Rainey et son adjoint Price. Malheureusement, le chef d'accusation retenu n'était plus un crime de forfaiture, mais un simple délit. L'affaire traîna jusqu'en 1966, lorsque la Cour suprême des États-Unis établit enfin qu'il y avait eu forfaiture. 3 ans après les meurtres, soit le 9 octobre 1967, on tint un procès à la Cour fédérale de Meridian. Pendant 10 jours, la nation attendit le verdict. Mais il n'y en eut point. Le jury n'arriva pas à faire l'unanimité.
Immédiatement, les gens qui se trouvaient dans la salle d'audience de Meridian se sont mis à rire, à se serrer dans leurs bras en disant qu'ils avaient gagné, puisque le jury n'était pas arrivé à un verdict. Le juge leur a alors dit que ce n'était pas le cas, que le jury devait poursuivre les délibérations.
Le jury retourna donc en délibération. Le lendemain matin, le 20 octobre 1967, ils étaient enfin arrivés à un verdict. Des 18 hommes accusés, 8 hommes, dont le grand sorcier Sam Bowers et le shérif adjoint Cecil Price, furent trouvés coupables d'avoir violé les droits civiques des 3 militants. Trois ans s'étaient écoulés depuis les meurtres. Justice était enfin rendue, mais le prix de cette justice était dérisoire. Bowers reçut la sentence la plus sévère, seulement 10 ans d'emprisonnement. Cecil Price fut condamné à 6 ans d'emprisonnement, et le shérif Rainey et le pasteur furent tous deux acquittés. Aucun des hommes accusés ne fut poursuivi par l'État. La plupart d'entre eux vivent encore au Mississippi. Et bien qu'il ait été question de rouvrir le dossier, tous les indices ont été détruits il y a plusieurs années par ordre de la Cour. La haine qui divisait la nation ne disparut pas facilement. Selon le militant Bob Moses, les événements du Mississippi marquaient cependant le début d'un changement important.
Ce qui a changé au Mississippi, c'est qu'avant les années 60, cet État était à part du reste du pays. On n'hésitait pas à y défier la loi pour maintenir cet apartheid. Maintenant, la loi y est respectée, comme dans le reste du pays. Le Mississippi est devenu un État, comme les autres.
Des dons ont permis de reconstruire l'église de Mount Zion. C'est devenu un lieu de pèlerinage en l'honneur des trois hommes qui sont venus ici, en espérant changer les choses, et qui ont réussi, mais d'une façon qu'ils n'avaient guère prévue. Mickey Schwerner et Andrew Goodman ont été inhumés à New York. Quant à James Cheney, sa tombe se trouve dans les collines à l'extérieur de Meridian. Elle est marquée de graffitis laissés là par des vandales.